novembre, ce sera Daniel Zachman du Weizmann Institute of Science, qui est actuellement à Heidelberg, qui nous parlera de Trapping of Fast Ions, Observation of Self-Bunching Effect. Et enfin, le mardi 5 décembre, ce sera Chiara Fort du laboratoire européen de spectroscopie non linéaire de Florence, qui nous parlera de Interference of Current Matter Waves. Voilà, alors aujourd'hui j'aborde un nouveau chapitre, qui est un chapitre de description d'expérience, et j'ai simplement remis ici au tableau quelques résultats que nous aurons à discuter aujourd'hui, établis au cours de la semaine précédente. Je vous rappelle cette échelle des valeurs de Q, Q étant l'impulsion transférée lors d'un processus de diffusion d'un atome ou d'un photon par un condensat. Ici, donc, pour les très faibles valeurs de Q, de l'ordre de l'inverse du rayon du condensat, on a les premiers modes de vibration du condensat. Pour les très grandes valeurs de Q, au-dessus de R0 sur Psi 02, où Psi 0 est la longueur de cohérence, la longueur de relaxation, healing length, on a ce qu'on appelle l'approximation d'impulsion, et on a uniquement pratiquement à tenir compte de l'effet Doppler. Toutes les autres causes d'élargissement sont négligeables. Par contre, entre 1 sur R0 et R0 sur Psi 02, on peut considérer le condensat comme formé par la juxtaposition d'un certain nombre de condensats immobiles décrits par une densité locale, et c'est ce qu'on appelle l'approximation de densité locale. Et à l'intérieur de ce régime, approximation de densité locale, il y a deux sous-régimes. Celui-ci, où on a Q plus grand que 1 sur Psi 0, où on a des particules libres, et Q plus petit que 1 sur Psi 0, où on a des phonons. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous décrire des expériences réalisées essentiellement à MIT, dans l'équipe de Wolfgang Ketterle. Donc, ce sont des expériences récentes qui datent d'un an sur la diffusion, donc MIT, sur la diffusion d'un photon ou d'un atome par un condensat. Et vous allez voir qu'on a réussi à vérifier expérimentalement un grand nombre des prédictions théoriques dont je vous ai parlé au cours des deux semaines antérieures. Je vais commencer, si vous voulez bien, par parler un petit peu de principes généraux des méthodes. Vous savez qu'on étudie la diffusion correspondant à un certain transfert d'impulsion Q, ou H bar Q plus exactement, et un certain transfert d'énergie H bar oméga, et le facteur de structure dynamique S de Q et d'oméga décrit justement la réponse du condensat à une telle excitation. Alors, comment fait-on varier Q et oméga? D'abord, dans la diffusion d'un photon. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on absorbe un photon laser de vecteur d'onde K1 et de fréquence oméga 1. Et pour augmenter le signal sur bruit, au lieu de regarder un processus spontané, on fait un processus stimulé, on provoque l'émission stimulée d'un photon K2 oméga 2 dans une autre direction, l'atome restant dans le même état interne. C'est ce qu'on appelle un peu, si vous voulez, la diffusion de Bragg. Je l'ai étudié en détail au début de l'année. J'ai calculé en particulier la probabilité de transition. On fait bien attention que comme c'est un processus stimulé, si les états sont discrets, on a en fait une oscillation de Rabi entre les deux états qui sont couplés par le processus Raman stimulé. S'il y a un continuum d'état final, il y a également, on peut parler d'une probabilité de transition par unité de temps. J'ai dessiné ici le vecteur d'onde K1 absorbé, le vecteur d'onde K2 du photon émis de manière stimulée, et K1-K2, c'est ce vecteur-là, Q. Et le transfert d'impulsion, c'est H bar Q. En fait, comme je vous l'ai indiqué, il s'agit ici de photons optiques alors que les fréquences des excitations élémentaires qu'on étudie par ces processus sont beaucoup plus basses, sont plutôt dans le domaine micro-ondes, sinon hertzien. Donc oméga qui est oméga 1 moins oméga 2 est beaucoup plus petit que oméga 1 oméga 2, de sorte que ces deux vecteurs ici, K1 et K2, ont pratiquement la même longueur. Et ceci entraîne qu'on peut remplacer K1, module de K1 par module de K1, module de K2 sont pratiquement égaux, et le transfert d'impulsion est obtenu simplement, on peut le faire varier simplement en changeant l'angle entre K1 et K2. Et on a évidemment Q, module de Q, égale 2K sinus de θ sur 2. Donc, pour changer le transfert d'impulsion, on change l'angle entre les deux faisceaux laser, et pour changer le transfert d'énergie, évidemment, on change oméga 1 moins oméga 2, on change très légèrement la différence de fréquence des deux faisceaux laser qui induisent la transition. Alors, il y a deux régimes un peu limites qui sont étudiés et que nous verrons par la suite. Si on veut le maximum de transfert d'impulsion est obtenu en prenant K1 et K2 opposés, auquel cas Q est égal à K1 moins K2, comme module de K2 est pratiquement égal à module de K1, on a module de Q égale deux fois module de K. Si par contre on veut faire un transfert d'impulsion tout petit, on prend K1 et K2 pratiquement parallèles avec un tout petit angle entre eux, et on a Q égale 2K sinus θ sur 2, et pour si on peut remplacer sinus θ sur 2 par θ sur 2, on a Q à peu près égal à Kθ. Pour faire varier oméga, on dérive les deux faisceaux laser d'un même faisceau laser initial, on les fait passer dans deux modulateurs acousto-optiques qui permettent de faire varier légèrement la fréquence du laser, d'une quantité donnée pour avoir oméga 1, d'une autre quantité pour avoir oméga 2, et on obtient ainsi deux faisceaux laser de fréquences différentes. Alors c'est astucieux de faire de la manière suivante, parce que si la fréquence du laser fluctue, comme elle fluctue de la même manière sur oméga 1 moins oméga 2, dans la différence, les fluctuations de fréquence du laser initiales de départ sont supprimées. Voilà donc comment on fait varier le transfert d'énergie et le transfert d'impulsion. Alors comment maintenant mesurer la probabilité de transition? Comment mesurer le taux de diffusion? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour que les excitations créées au cours du processus de diffusion se propagent suffisamment rapidement par rapport à la vitesse d'expansion du condensat pour quitter le condensat et pour s'en séparer. À ce moment-là, on a dans l'image de temps de vol qui est nécessaire pour étudier les phénomènes, on a deux images distinctes, l'image du condensat initial et l'image des atomes qui ont été excités, qui ont quitté le condensat. Et alors on mesure le nombre d'atomes éjectés en fonction d'un paramètre, par exemple oméga 1 moins oméga 2, on balaye oméga 1 moins oméga 2 et on pense le nombre d'atomes éjectés en fonction d'oméga 1 moins oméga 2, ce qui fait apparaître la résonance. Mais pour cela, il faut absolument que la vitesse des excitations élémentaires soit plus grande que la vitesse d'expansion balistique du condensat. En effet, dès qu'on arrête le piège, les répulsions entre atomes et la dispersion de vitesse initiale font que les atomes explosent et qu'on observe une expansion balistique. Alors, ceci nous oblige à revenir un tout petit peu en arrière et à faire quelques rappels sur l'expansion balistique, parce que j'en aurai besoin pour discuter des expériences. Alors, toutes les expériences réalisées, en général, le sont sur des condensats très anisotropes qui ont la forme d'un cigare allongé. Et le cigare est horizontal parce que pour lutter contre la gravité qui fait tomber les atomes, il faut que l'axe de liaison forte du piège soit vertical. Donc le piège est raide sur la direction verticale, beaucoup plus mou sur la direction horizontale, et c'est pour ça que le cigare est horizontal. J'appellerai donc, il a la symétrie de révolution autour d'un axe horizontal, j'appellerai R perpendiculaire le rayon du cigare, et 2RZ sa longueur. Et en général on appelle A, RZ sur R perpendiculaire à l'instant initial, le rapport d'anisotropie. Il est très grand devant 1. À t égale 0, on coupe les pièges. À ce moment-là, le condensat subit l'expansion balistique. Et comme je l'ai discuté il y a, je crois, 2 ans, dans le cours 98-99, cette évolution peut être décrite simplement en termes d'une dilatation. Une dilatation radiale, une dilatation axiale, avec des facteurs différents. Et c'est cité par exemple la référence 13, c'est l'article de Yvan Castin et Ralph Doom qui étudie ce problème en détail. Je rappelle ici les résultats donc, qui ont été établis il y a 2 ans, et vous pouvez vous reporter à cette référence pour les retrouver. On trouve que R perpendiculaire de taux, où taux est un temps sans dimension défini par taux égale oméga 0 perpendiculaire T, c'est un temps défini en unité de période de la vibration radiale. On trouve que R perpendiculaire taux, c'est R perpendiculaire de 0 racine de 1 plus taux 2, et Rz de taux, c'est Rz de 0 facteur de 1 plus 1 sur A2, taux arc tangent taux moins logarithme népérien de racine de 1 plus taux 2. Alors si on prend ces expressions et qu'on regarde leur comportement asymptotique quand taux devient très grand devant 1, c'est-à-dire quand t devient beaucoup plus grand que 1 sur oméga 0 perpendiculaire, on trouve d'abord que racine de 1 plus taux 2 devient équivalent à racine de taux 2, c'est-à-dire taux, et que R perpendiculaire de t, c'est R perpendiculaire 0 de taux, c'est R perpendiculaire 0 d'oméga 0 perpendiculaire de t. Par ailleurs, je vous rappelle que nous supposons que nous sommes dans la limite de Thomas Fermi, où on peut négliger le terme d'énergie cinétique dans l'équation de Gross-Pitaïsky, et que le rayon du condensat, l'endroit le long d'une direction radiale où la densité s'annule, R perpendiculaire de 0, est défini par l'énergie potentielle, 1 demi de M oméga 0 perpendiculaire, R perpendiculaire au carré de 0, égal au potentiel chimique mu. C'est à partir de ce moment-là que la densité s'annule. On a la forme d'une parabole inversée. Si on prend cette équation, on en déduit que oméga 0 perpendiculaire, R perpendiculaire 0, c'est racine de 2 sur mu sur m, et racine de mu sur m, c'est la vitesse du son au centre du condensat, où la densité est maximale, et donc on en déduit que l'expansion radiale du condensat se fait à une vitesse qui est racine de 2 fois la vitesse du son au centre du condensat. Donc on connaît la vitesse donc d'expansion radiale. Quelle est la vitesse d'expansion axiale? Ben, elle est donnée par l'autre formule. Il y a un terme taux arc tangent de taux. Si on prend taux très grand devant 1, arc tangent de l'infini, c'est pi sur 2, donc arc tangent de taux, c'est pi sur 2, et taux arc tangent de taux, qui est de l'ordre à ce moment-là de pi sur 2 fois taux, est plus grand que le logarithme népérien, et on en déduit que Rz de t égale Rz de 0 divisé par le rapport d'anisotropie au carré, donc ça va nous donner Rz 1 qui va s'en aller, donc R perpendiculaire 0 au carré sur Rz de 0, oméga 0 perpendiculaire, arc tangent de taux qui est pi sur 2 fois t. Comme tout à l'heure, je peux écrire oméga 0 perpendiculaire, R perpendiculaire 0 égale racine de 2C, et je vois apparaître, ça me fait partir 1 des 2 R perpendiculaire 0 ici, et Rz sur R perpendiculaire à l'instant initial, c'est le rapport d'anisotropie, je trouve que Rz de T égale 1 sur le facteur d'anisotropie, pi sur 2, racine de 2, c'est T. Donc la vitesse d'expansion axiale, le long de l'axe long du cigare, est égale à la vitesse d'expansion radial, racine de 2c, qui multiplie 1 sur a, 2 sur pi. Autrement dit, la vitesse d'expansion axiale est a que multiplie 2 sur pi fois plus petite que la vitesse d'expansion radiale. Donc le cigare s'étend beaucoup plus rapidement le long de son petit axe radial que le long de son grand axe. Et le rapport est a fois 2 sur pi, qui est peut-être beaucoup plus grand que 1. Donc le rapport d'anisotropie, qui était plus petit que 1, qui était beaucoup plus grand que 1 à l'instant initial, devient plus petit qu'un au temps grand. Ça veut dire que le cigare se transforme très rapidement en une crêpe. D'accord? Il s'étend comme ça. Ça fait donc une crêpe aplatie. Alors, ce phénomène a été étudié en détail par plusieurs groupes, en particulier par David Guéry-Audelin, ici à Paris, qui a étudié ce problème de manière quantitative. Et je donne ici une figure extraite de sa thèse de doctorat, où on voit le rapport d'anisotropie en fonction du temps normalisé. Le temps normalisé, c'est oméga 0 perpendiculaire t. Alors, ici, à l'instant initial, vous voyez le condensat avec la forme d'un cigare, et puis petit à petit, ça change, et à la fin, ça devient une crêpe, dans la direction perpendiculaire. Et ces points sont des points donc mesurés expérimentalement, et la ligne entre ces pleins représente la prédiction théorique obtenue à partir des équations précédentes. Alors, de cette étude, de ce rappel, nous en concluons qu'il faut faire attention, le condensat s'étend très vite dans une direction verticale, perpendiculaire à son grand axe, et il faut à ce moment-là comparer maintenant la vitesse d'une excitation élémentaire à la vitesse d'expansion radiale, qui est très grande. Alors, supposons d'abord qu'on soit dans le cas d'une excitation de type particule libre, oméga Q0, plus grand que le potentiel chimique. À ce moment-là, la condition excitation de type particule libre s'écrit h bar de Q2 sur 2m, l'énergie cinétique de recul, plus grande que le potentiel chimique, c'est-à-dire h bar Q sur m au carré, plus grand que mu sur m, c'est-à-dire plus grand que C2. Or, si je suis dans une excitation de type particule libre, la vitesse des excitations est de l'ordre de h bar Q sur m. Donc j'en déduis que la vitesse des excitations créées dans ce régime, h bar Q sur m, est très grande devant la vitesse du son, c'est-à-dire la vitesse d'expansion balistique radiale. Donc l'excitation élémentaire n'aura aucune peine à se séparer du condensat et j'obtiendrai à ce moment-là deux images distinctes. À ce moment-là, je peux créer mon excitation élémentaire aussi bien dans la direction axiale que dans la direction radiale. Elle se séparera toujours du condensat. Par contre, si je suis maintenant dans une excitation de type phonon, si h bar de Q2 sur 2m est plus petit que mu, je sais que les excitations élémentaires dans le régime de type phonon se propagent à la vitesse du son. Et la vitesse d'expansion radiale est plus grande que la vitesse du son par un facteur racine de 2. Donc si je crée l'excitation de type phonon dans la direction radiale, elle ne se séparera pas du condensat. Il faut donc absolument, à ce moment-là, la créer, l'excitation élémentaire, il faut la créer le long de l'axe du condensat, parce que cette direction subit une expansion balistique beaucoup plus lente, et là, je peux avoir un espoir de séparer l'excitation élémentaire du condensat et d'avoir deux images qui se différencient suffisamment pour pouvoir être mesurées. Donc, nous voyons que ce rapide rappel nous a permis de savoir dans quelle direction il faut créer les excitations élémentaires si on veut espérer les séparer. Et maintenant, je suis donc en mesure d'aborder, dans le paragraphe suivant, la diffusion d'un photon d'abord dans le régime particule libre. Et je vais d'abord montrer des images de temps de vol et montrer l'apparition très claire d'une résonance. Alors, c'est ce que je présente ici. Donc, ici, je mets les commentaires de la figure. Et ici, je vais mettre donc la figure expérimentale. Alors, vous voyez ici le condensat avec la forme d'un cigare horizontal et les deux faisceaux laser, K1 et K2, sont verticaux, ils sont perpendiculaires à la direction de l'axe du condensat. De sorte que ça c'est K1, ça c'est K2, l'impulsion qu'on va donner aux atomes est dans la direction verticale. C'est ce qui est représenté ici, après un certain temps de vol. Ça c'est les atomes qui n'ont pas subi de diffusion. Et ça, c'est les atomes qui ont subi absorption et émission stimulée, donc qui ont reçu une impulsion 2H bar Q, 2H bar K dans cette direction. Et donc, c'est marqué ici, les lasers sont appliqués pendant 500 microsecondes, puis ils sont coupés en même temps que le piège. Et vous voyez ici, les images de temps de vol, chacune de ces images correspond à une différence de fréquence différente, oméga, égale oméga 1 moins oméga 2 en des fréquences de 2 lasers. Donc on balaye oméga 1 moins oméga 2. Et vous voyez très clairement qu'on voit deux images, et qu'on les voit, on voit l'image des atomes diffusés le plus clairement ici, ce qui montre que quand on balaye oméga 1 moins oméga 2, il y a visiblement une résonance dans le nombre de photons qui ont été, le nombre d'atomes qui ont été éjectés hors du condensat. Et si on porte ici le nombre d'atomes diffusés en fonction de l'écart de fréquence entre les deux faisceaux laser, ici on les a portés en fonction de, d'abord on a utilisé une fréquence réelle et non pas une fréquence angulaire oméga, et on les a repérés par rapport à la fréquence de recul h bar q0 carré sur 2m, h bar q2 sur 2m. Donc on a regardé l'écart de la résonance par rapport à cette position. Et vous voyez qu'on obtient une résonance, une belle résonance, avec une largeur de 2 kHz. Je vous rappelle d'ailleurs que il y a un an, l'année dernière, en étudiant les expériences portant sur l'étude de la longueur de cohérence d'un condensat, j'avais déjà décrit les résultats expérimentaux de cette étude, mais avec plutôt l'esprit de montrer que c'était la dispersion d'impulsion correspondait par la relation d'Heisenberg à la dimension du condensat. Je rappelle cette figure, je l'ai ramenée aujourd'hui. Donc c'est la même que celle-là, hein, mais présentée de manière différente. Donc ça c'est un transparent de l'an dernier. Où vous voyez ici le spectre de diffusion de Bragg, le même que celui que je viens de montrer, avec les ronds. Et en pointillé ici, vous voyez la distribution d'impulsion qui serait calculée, qui est calculée à partir de la fonction d'onde de l'état fondamental du puits harmonique contenant les atomes. Si tous les atomes étaient dans l'état fondamental du puits harmonique, ils seraient donc dans cette fonction d'onde et leur distribution d'impulsion serait donnée par les fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique. Vous voyez que la diffusion de Bragg fait apparaître une distribution d'impulsion plus étroite et l'interprétation de ceci est claire. Comme les atomes se repoussent à cause de leur interaction, la longueur de diffusion est positive, la fonction solution de l'équation de Gross-Pitaïsky est plus large que l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, et par conséquent, la distribution d'impulsion est plus étroite. Donc ça montre très clairement l'effet des interactions. Les triangles ici correspondent à la même mesure, la mesure de la distribution d'impulsion prise sur le nuage après une 3 millisecondes d'expansion balistique. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'énergie de l'interaction qui était contenue dans le condensat, au moment de l'explosion balistique, est transformée en énergie cinétique et ça augmente la dispersion des vitesses des atomes. Donc la courbe avec les triangles, c'est la distribution d'impulsion du nuage après expansion balistique de 3 millisecondes. Et enfin, la courbe en trait tireté ici, c'est la distribution d'impulsion du nuage thermique. De sorte que vous voyez que dans les photos qu'on montre d'habitude de la condensation de Bose-Einstein, on compare les images de temps de vol du nuage du condensat après expansion balistique et du nuage thermique. Donc ce qu'on compare, c'est cette courbe et celle-là. Et la différence de largeur est claire pour voir l'existence d'une structure avec deux bosses, mais elle n'est pas spectaculaire. Alors que si on compare la distribution de l'impulsion dans le nuage thermique à la distribution réelle du condensat qu'on obtient par diffraction, par expérience de diffusion, la différence est beaucoup plus spectaculaire. Bien, alors, revenons à nos problèmes cette année, qui est d'étudier la diffusion et de vérifier les prévisions théoriques. D'abord, je donne ici quelques données expérimentales. La fréquence de recul oméga Q0 sur 2π dans cette expérience est de 100 kHz. Elle correspond à Q égale 2K. Et le potentiel chimique pour la densité d'atomes utilisée de 6 kHz. Donc on est très clairement dans le régime oméga Q0 plus grand que mu sur H. Et la vitesse des excitations élémentaires est de 60 mm par seconde, alors que la vitesse du son est de 10 mm par seconde. Alors maintenant, du spectre que je vous ai montré tout à l'heure, on peut extraire le barycentre du spectre, c'est-à-dire le centre du spectre, et étudier comment il varie en fonction des paramètres. Et la figure suivante donne le barycentre du steak, oméga moyen, en fonction de la densité au centre du nuage, qui est proportionnelle au potentiel chimique mu, qui est 0,0. Vous voyez qu'on obtient une ligne droite. Les points et les triangles correspondent à deux rayons de condensat différents. Et la pente de cette droite est en excellent accord avec la prévision théorique. Je vous rappelle que la semaine dernière, dans le régime particule libre, j'ai calculé dans l'approximation de densité locale SLDA2Q, c'est 1 moins 4 septièmes de mu sur h bar oméga Q0, et le centre de la résonance, c'est oméga Q0 moins 4 septièmes de mu sur h. Mu sur h bar. Et ceci, c'est oméga moins oméga Q0 divisé par 2 pi. C'est la vraie fréquence mu moins nu 0. Je rappelle que le déplacement du spectre dû à l'effet Doppler est nul. La vitesse moyenne est nulle et donc il n'y a pas de déplacement moyen lié à l'effet Doppler. Le déplacement du spectre n'est dû uniquement aux interactions. Si j'avais un condensat uniforme, il vaudrait mu sur h bar. Ici, j'ai 4 septièmes de mu sur h bar parce que la densité n'est pas homogène. Et il y a la moyenne spatiale de la densité qui fait que le déplacement moyen est plus petit que le déplacement au centre du condensat où la densité est la plus grande et où mu où ρ est le plus grand. Alors, regardons maintenant l'élargissement. Alors, l'élargissement, ici, a fait l'objet d'une étude très soignée, qui est représentée ici. Regardez d'abord la figure A, ici. La courbe en trait de tireté, qui est ici, qui est linéaire en fonction de la densité d'atomes, qui est en fonction du potentiel mu, c'est l'élargissement lié aux interactions. Pourquoi il y a un élargissement? C'est parce que le déplacement lié aux interactions varie d'un point à l'autre du condensat, et par conséquent, ça produit un élargissement inhomogène. Et je vous rappelle que, j'ai pas établi ceci, mais on calcule facilement que l'élargissement est racine de 8 sur 147 mu sur h. Qu'on prend la distribution de densité correspondant à Thomas Fermi, et qu'on calcule le déplacement du spectre dû aux interactions, sa moyenne, l'écart quadratique est racine de 8 sur 147 mu sur h. Donc c'est linéaire en mu, et c'est donné par cette formule. Les courbes en pointillés ici, qui décroissent quand la densité augmente, c'est la largeur Doppler. Pourquoi ça décroît? C'est facile à comprendre. Quand on augmente la densité, le condensat gonfle à cause d'une interaction, donc la fonction d'onde devient plus large, donc delta x augmente, et delta p, qui est 1 sur delta, h bar sur delta x, diminue. Donc l'élargissement Doppler lié à la dispersion des vitesses diminue quand delta x augmente parce que delta p diminue. Et ça, c'est le déplacement Doppler pris pour deux rayons différents du condensat. Et je vous ai montré la semaine dernière, en utilisant la méthode des moments, que quand la largeur Doppler et la largeur due aux interactions sont comparables, c'est-à-dire dans cette région-là, il est légitime de considérer que la largeur du vrai spectre, c'est la racine carrée de la somme des carrés de la largeur Doppler et de la largeur due aux interactions. Autrement dit, les variances s'ajoutent et il faut donc ajouter quadratiquement la largeur Doppler et la largeur due aux interactions. Et c'est ce que les courbes en trait plein représentent, donc la somme quadratique de la largeur Doppler et de la largeur due aux interactions. Et les points sont les points expérimentaux. Vous voyez qu'il y a un bon accord entre l'expérience et donc la théorie consistant à ajouter la largeur Doppler et la largeur due aux interactions. Ici, on est dominé par l'effet Doppler. Ici, on est dominé par les interactions. Et au milieu, on a les deux. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de faire une théorie soignée pour regarder ce qui se passait quand les deux effets étaient du même ordre de grandeur. Je signale aussi que la théorie de Stringari, Pitevski et de leurs collaborateurs qui ont étudié ce problème par une approximation iconale donne des résultats en très bon accord avec ces observations expérimentales. Enfin, la courbe B qui est marquée ici porte la largeur Doppler obtenue en soustrayant de la largeur totale la contribution des interactions, quadratiquement, on obtient la largeur contribution de la largeur Doppler. On soustrait également une autre contribution à la largeur dont je n'ai pas parlé, qui provient du fait que l'impulsion laser a une durée finie, et que par conséquent, comme elle a une durée finie, il y a un élargissement lié à l'incertitude delta et delta t. Donc on soustrait la largeur liée à l'impulsion finie, à la durée finie de l'impulsion laser, et on obtient ici la largeur du spectre de diffusion liée uniquement à la dispersion des vitesses, et on vérifie que cette largeur est consistante et en bon accord avec ce qu'on attend en prenant la largeur d'incertitude liée à la dimension du condensat. Ce qui montre que la longueur de cohérence du système, c'est la longueur du condensat. Qu'en tous les points du condensat, la phase est la même. Donc ça, c'était une des expériences étudiant la longueur de cohérence d'un condensat. Donc il y a un accord très satisfaisant donc, pour toutes les grandeurs caractéristiques du problème dans le régime particule libre. Je passe maintenant au régime phonon. Diffusion d'un photon dans le régime phonon. Alors maintenant, l'expérience est plus délicate, plus difficile. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut maintenant absolument créer l'excitation élémentaire, non plus dans la direction perpendiculaire à l'axe du cigare, mais le long de l'axe du cigare. Sinon, les images ne se sépareraient pas. Donc, on prend maintenant une expérience. On a oméga Q0 et n'est plus que de 1,5 kHz, alors que mu est de l'ordre de 6 kHz. On est donc dans le régime où mu est plus grand que oméga Q0. La vitesse Hbar Q sur M est de 7 mm par seconde. Et la vitesse du son est de 10 mm par seconde. Alors maintenant, et c'est la figure que je vais montrer ici, l'image de temps de vol. Alors vous voyez maintenant, au lieu d'avoir deux faisceaux laser perpendiculaires à l'axe du condensat, on prend les deux faisceaux laser presque perpendiculaires, formant entre un tout petit angle de 14 degrés, de manière que l'impulsion transférée soit dans la direction du grand axe. D'accord ? Donc, on voit la différence de géométrie. Alors maintenant, il faut commenter ces figures assez soigneusement, parce qu'elles ne sont pas faciles à voir, il faut regarder de près. Et ce qu'on fait, d'abord, l'image de temps de vol est en B et D. Regardez d'abord ces deux figures-là. Alors, au début, quand l'excitation est créée, elle se propage à la vitesse du son. Puis, on arrête le piège et on laisse le condensat subir l'expansion balistique, donc la densité diminue, et l'excitation se transforme progressivement, excitation de type phonon, excitation de type particule libre. Et elle va à ce moment-là à la vitesse Hbar Q sur M. D'accord ? Et néanmoins, comme l'expansion du condensat le long de son grand axe est extrêmement lente, elle va quand même arriver à se séparer du condensat et à donner une image à droite du condensat. Alors, regardez ces figures, il faut quand même, vous voyez que la densité ici, à droite, est un peu plus sombre que là et là, ce qui prouve qu'il y a des atomes qui sont de ce côté du condensat. Ça apparaît plus clairement dans une coupe de cette image, moyennée dans cette direction. Vous voyez sur la partie de droite ici, un épaulement qui est plus grand que sur la partie de gauche. Donc ça, c'est les atomes qui ont été éjectés du condensat sous forme d'excitation phonon. Alors vous allez dire, mais pourquoi ils sont si petits? Pourquoi il y en a si peu? Rappelez-vous que le facteur de structure statique qui donne la quantité totale de diffusion tend vers zéro quand Q tend vers zéro. Donc il est beaucoup plus petit dans le régime phonon que dans le régime particule libre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup moins d'atomes diffusés que tout à l'heure. Mais enfin, il y a incontestablement un épaulement ici, une zone un peu plus sombre ici qui représente les atomes qui ont été éjectés sous forme de phonon. Par ailleurs, les deux figures C et D et E de droite ici correspondent à une expérience légèrement différente que c'est ici, 5C et 5E. On n'applique pas tout de suite l'impulsion laser. On part du condensat, on coupe les pièges, on laisse 5 millisecondes d'expansion balistique et après seulement on applique les deux impulsions laser. Pourquoi on fait ça? Parce qu'après 5 millisecondes d'expansion balistique, la densité d'atomes a considérablement diminué, elle a diminué par un facteur 23, et on est dans le régime particules libres. D'accord? Et à cela, quand on applique les deux impulsions laser, les deux faisceaux laser, on crée une excitation de type particules libres avec un facteur de structure statique beaucoup plus important, et donc il y a beaucoup plus de diffusion. Et on voit plus clairement les phénomènes. Donc, on coupe pendant 5 millisecondes, on applique après les impulsions laser, et on laisse combien de temps? 70 millisecondes, je crois, d'impulsion, oui, 70 millisecondes d'expulsion balistique. Et voilà ce qu'on observe. On observe, effectivement, donc, une image beaucoup plus claire d'atomes diffusés, et l'épaulement ici est beaucoup plus clair. Et la distance est à peu près la même, parce que les particules se déplacent à H-barq sur M pendant 70 millisecondes moins 5 millisecondes, c'est-à-dire pratiquement le même temps. Et je vous ai dit tout à l'heure que les excitations de type phonon se transformaient au cours d'expansion balistique en expansion, en excitation de type particules libres, se propageant aussi à H-barq sur M. Et là, la comparaison de cette figure et de celle-là montre très clairement que le facteur de structure statique est dramatiquement plus petit pour une excitation de type phonon que pour une excitation de type particules libres. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails après cette image. Je vais maintenant donner, donc après l'image de temps de vol, je vais donner maintenant un exemple de spectre. Donc, les deux projets transparents, je ne les remets pas parce que je les ai dit oralement. Ah, si, j'ai oublié de dire quelque chose quand même ici. Le spectre, le cercle qui est ici, vous remarquez qu'il y a un cercle ici, qui est ici aussi, c'est un cercle qui est tracé à la main et qui a pour rayon CT. C'est un cercle correspondant à une vitesse égale à C. Vous voyez qu'il est un peu plus petit que l'expansion radiale du condensat qui est racine de 2 CT. D'accord? Mais vous voyez que l'image ici et l'image ici est à l'intérieur du cercle, ce qui montre qu'on est dans un régime où H-barq sur M est plus petit que C. Donc on est bien dans le régime phonon. D'accord? Donc ça c'est simplement un guide pour l'œil pour montrer qu'on est dans un régime où les particules se propagent à une vitesse plus petite que la vitesse de la lumière. Alors je montre maintenant un spectre qui est ici. Alors, ce qu'on porte ici, en abscisse, c'est oméga moins oméga 2. En ordonnée, c'est l'impulsion transférée au système. L'impulsion transférée au système, c'est le nombre d'atomes qui ont été éjectés que multiplie l'impulsion qu'on leur a donnée. Alors, si oméga 1 est plus grand que oméga 2, je redessine ici à peu près ma parabole. Hein. C'est pas tout à fait une parabole, ça, ça part avec une droite. Si oméga 1 est plus grand que oméga 2, absorption-émission stimulée, l'impulsion transférée est positive. Si par contre oméga 1 est plus petit qu'oméga 2, on absorbe d'abord oméga 2 et on émet de manière stimulée oméga 2, l'impulsion transférée est négative. Donc on a une courbe qui est antisymétrique. On aurait pu aussi porter simplement le nombre d'atomes transférés en fonction d'oméga 1 moins oméga 2, c'est pas ce que les expérimentateurs ont fait là, ils ont porté l'impulsion transférée. Donc on a une courbe antisymétrique. La courbe avec les ronds creux, ça correspond à l'expérience où l'excitation par les deux faisceaux laser se fait avant qu'on ait coupé le piège. C'est-à-dire qu'elle se fait dans le régime réellement phonon. On n'a pas laissé 5 millisecondes d'expansion balistique. Donc ça, c'est vraiment la courbe importante. C'est la courbe qui donne le spectre d'excitation pour le régime phonon. On l'obtient, évidemment, à partir des courbes précédentes, en soustrayant le condensat, en soustrayant le nuage thermique, c'est compliqué, et en fitant les résultats obtenus par la différence de deux gaussiennes. Centré en deux points symétriques. Alors, on obtient donc une gaussienne ici, centrée ici, ayant à peu près cette largeur-là. La courbe avec les ronds pleins correspond à la même étude expérimentale, mais faite sur la courbe obtenue en appliquant d'abord 5 millisecondes d'expansion balistique avant d'appliquer les faisceaux laser. Donc ici, on est dans un régime de type particules libres. C'est la raison pour laquelle il y a un spectre beaucoup plus important. Vous voyez qu'il est plus important et il est situé à un centre ici plus plus petit que l'autre. Le spectre avec régime phonon a une abscisse beaucoup plus importante que le spectre particulier. Alors, si je comprends bien, donc les ronds vides correspondent à une excitation de type phonon. Donc, si je me rappelle le résultat de la semaine précédente, dans le régime de type phonon, le baryton du spectre, c'est C bar Q, et C, c'est racine de mu sur M, et C bar, c'est 32 sur 15 pi C, et dans le régime phonon, la vitesse du son, c'est, est plus grande que S bar Q sur M. Donc, c'est la raison pour laquelle le spectre correspondant au régime phonon, ici, est plus à droite que le spectre correspondant au type particulier. C'est parce que la vitesse du son est plus grande que la vitesse particulière, base barcule sur M, dans le régime phonon. Et la différence de poids des deux rays est compréhensible aussi parce que le facteur de structure statique, qui est marqué ici, dans le régime phonon, il tend vers zéro linéairement en Q, comme H bar Q sur 2MC bar, alors que dans le régime de type particulier, il est très voisin de 1, il est 1 moins 4 septième de mu sur H bar oméga Q0. Et j'ai insisté, il y a 2 ou 3 séances, sur l'importance de cette décroissance du facteur de structure statique quand Q tend vers zéro, parce qu'elle reflète la structure de l'état fondamental du condensat, qui n'est pas simplement un produit de fonctions d'onde toutes les mêmes, mais qui contient également des excitations virtuelles de paires. Q moins Q. Et le fait que le facteur de structure tend vers zéro reflète directement la structure de la fonction d'onde de l'état fondamental. Alors, il y a eu une étude encore plus précise qui a été faite pour étudier en détail comment varie le facteur de structure. Je passe donc maintenant au facteur de structure. Et c'est représenté sur la figure suivante. Alors, concentrons-nous d'abord sur la figure petite, la première figure ici, petit a. Alors, comment on fait? Sur le spectre précédent, on a fité le spectre précédent par la différence de deux gaussiennes. On prend chaque gaussienne et on prend son poids, c'est-à-dire l'air qui est sous la gaussienne, et ça représente le facteur de structure statique. Et comment on fait pour le normaliser? On prend la courbe correspondant au régime particulier, pour lequel on sait que c'est égal à 1, et on normalise donc la petite gaussienne. On mesure l'air qui est sous cette petite gaussienne ici, en la normalisant par l'air qui est sous cette grande gaussienne. Et on obtient ainsi le facteur de structure statique dans le régime phonon. Donc, il est représenté ici en fonction de la densité au centre du condensat qui revient aussi à mu sur h. Et vous voyez que quand cette densité augmente, on décroît d'abord linéairement, et ça c'est un rappel que pour mu tout petit devant h bar oméga q0, on a 1 moins 4 septième de mu sur h bar oméga q0. Et quand mu devient plus grand que h bar oméga q0, quand on réside dans le régime de type phonon, le facteur de structure varie comme h bar q sur 2mc bar. C bar, c'est proportionnel à c. C, c'est proportionnel à la racine de mu. Donc le facteur de structure doit décroître comme 1 sur racine de q. D'accord? Comme q, q sur racine de q. Il y a q ici, puis... Alors, excusez-moi. Comme 1 sur racine de mu. 1 sur racine de mu. Vous voyez que le facteur de structure, ici, décroît comme 1 sur racine de mu. Il n'a pas été étudié ici la dépendance du facteur de structure en fonction de Q. On n'a pas fait varier l'angle entre les deux faisceaux laser. Donc, ça montre très clairement la décroissance du facteur de structure quand la densité du condensat augmente. Quant à la figure du dessous, ici, elle représente, elle, l'étude de la position du spectre. Et les points qui sont là représentent le déplacement de la résonance par rapport à oméga Q0 en fonction de mu. Alors, vous voyez que pour mu grand, la position du spectre, c'est oméga moyen égale C bar Q, donc ça doit varier comme racine de mu, c'est une courbe qui varie comme racine de mu ici, racine de x, alors que pour mu petit, on a une droite qui doit varier comme 1 moins 4 septième, comme oméga Q0, donc ici ce qu'on pense en fait c'est oméga moins oméga Q0 sur 2π, et c'est une courbe qui varie linéairement. Et les points ronds qui sont ici sont les déplacements de la résonance obtenus dans le régime de particules libres de l'expérience précédente, où oméga Q0 est beaucoup plus grand, donc on doit avoir une courbe équivalente à celle-là, mais où la courbure apparaît beaucoup plus tard, hein, quand mu devient de l'ordre de h bar oméga Q0. Mais ça montre bien que les deux courbes partent avec la même tangente à l'origine. Donc on peut dire que, aussi bien pour le facteur de structure que pour le barycentre, le régime fondant a été étudié, donc il a donné des résultats en accord avec les prédictions théoriques. J'aborde maintenant le dernier paragraphe, qui est la diffusion d'un atome. Et d'abord, comment on fait pour lancer dans le condensat un atome avec une vitesse donnée et comment faire varier cette vitesse? D'accord? Pour voir comment le phénomène de superfluidité apparaît. Alors, il faut bien sûr lancer dans le condensat un atome qui soit discernable des atomes qui sont condensés pour qu'il puisse être considéré comme une sonde et non pas comme une excitation du condensat. Alors, ce qu'on fait, c'est, dans la référence 17, c'est qu'on prend une transition rarement simulée, K1, oméga 1, K2, oméga 2, mais maintenant, on finit dans un sous-niveau Zeeman différent du sous-niveau Zeeman dans lequel sont piégés les atomes du condensat. On crée donc un atome dans un autre sous-niveau Zeeman qui est donc discernable des atomes qui sont condensés. Et en fait, les atomes sont condensés, c'est des atomes de sodium, dans l'état F égale 1, M égale moins 1, et ils sont expédiés, les atomes sondes sont préparés dans l'état F égale 1, M égale 0. En plus, l'avantage, c'est que les atomes qui sont ici ne sont pas du tout sensibles au champ magnétique, ils sont dans un état sans moment magnétique, ils se propagent donc sans être sensibles au champ piégeur. Comment varier la vitesse des atomes? Eh bien, on varie l'impulsion transférée en variant l'angle entre les deux faisceaux laser qui induisent la transition Raman. Et comment mesure la section efficace totale de diffusion? On prend une image de temps de vol et on mesure l'ensemble des atomes qui ont été diffusés sous forme, en regardant le nuage de ces atomes. Et alors en plus, comme les atomes MF égale 0 et MF égale moins 1 n'ont pas le même moment magnétique, en appliquant un gradient de champ magnétique, on peut séparer spatialement, par effet Stern et Gerlach, les atomes sondes des atomes condensés. Et donc ça c'est une très belle technique qui permet de voir vraiment les deux types d'atomes. Alors, j'étudie d'abord la limite ou la vitesse de l'atome sonde, donc après avoir appelé les méthodes. J'étudie d'abord le cas où la vitesse de l'atome sonde est très grande devant la vitesse du son dans le condensat, auquel cas je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de superfluidité et qu'à ce moment-là, des collisions, la particule sonde excite des particules du condensat et elle est elle-même diffusée. Bon, alors, je reprends ici une figure que j'avais pas eu le temps de faire, j'avais fait au tableau quand on avait parlé, sur la partie théorique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la collision entre deux atomes de même masse? En effet, l'atome qu'on prépare pour faire la collision est un atome de sodium qui a la même masse que les atomes condensés. Hein, il diffère simplement par le niveau Zeeman. On a donc un atome qui a une certaine vitesse initiale et qui va entrer en collision avec des atomes qui sont immobiles. Les atomes condensés, on peut les considérer comme des atomes immobiles. Et comme je suis dans le régime V plus grand que C, je suis dans le régime particules libres, et je peux à ce moment-là raisonner comme si j'avais affaire à des particules libres. Alors, j'ai représenté en haut la collision dans le système du centre de masse et en bas la collision dans le système du laboratoire. Alors, dans le système du centre de masse, les deux particules arrivent l'une vers l'autre avec des vitesses opposées. D'accord ? Je vais représenter ici. Par exemple, la particule bleue, c'est la sonde, et la particule rouge, c'est l'atome du condensat. Les deux particules arrivent l'une sur l'autre avec des vitesses opposées. Comme on est à très basse température, la diffusion est isotrope, elle se fait dans l'onde S, et donc l'amplitude de diffusion est uniforme. Et les deux particules diffusées, la particule sonde bleue est diffusée là, et la particule du condensat est diffusée ici. Si maintenant, je regarde ce qui se passe dans le système du laboratoire, initialement, l'atome du condensat est immobile, et l'atome sonde a une vitesse deux fois plus grande que tout à l'heure, puisque, d'accord? Et après la diffusion, il faut donc que j'ajoute la vitesse du centre de masse à chacun de ce vecteur rouge-là et ce vecteur bleu, et j'obtiens ici la vitesse sonde, et ici la vitesse du condensat, de la particule du condensat. Et vous voyez à ce moment-là qu'elles sont sur un triangle rectangle qui a pour grande hypoténuse ici un grand cercle, un diamètre du grand cercle. D'accord ? Et on voit très bien ici qu'il y a conservation de l'impulsion et de l'énergie. La conservation de l'impulsion est très claire parce que ça plus ça, ça me donne bien ça. Et la conservation de l'énergie, c'est le théorème de Pythagore, ça au carré plus ça au carré, comme les masses sont les mêmes, est égal à ça au carré, c'est-à-dire à l'énergie initiale, cinétique initiale. Donc, dans le système du laboratoire, l'extrémité de l'impulsion des particules sondes et des particules du condensat qui ont été excitées doivent être situées sur une sphère qui a pour diamètre la vitesse de la particule sonde initiale. Voilà le résultat. Qu'on peut prévoir ce qui se passe dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'on peut le voir expérimentalement? La réponse est oui. Alors, il faudrait commenter cette figure. Ici, c'est le principe. En haut, c'est ce qui se passe sur MF égale 0, sur les particules sondes. En bas, c'est ce qui se passe sur le condensat. Et on a séparé spatialement ces deux images en appliquant donc un Stern-Gerlach avec un gradient champ inhomogène. Alors, vous voyez que les particules sondes, celles qui n'ont pas été diffusées sont là, hein. On leur a donné cette vitesse initiale. Et celles qui ont été diffusées, les particules qui ont été diffusées, sont donc sur une sphère qui est la représentée ici, la partie grisée. Le condensat, il est ici, et les particules du condensat qui ont été diffusées sont sur la même sphère. Et voilà maintenant les vraies images de temps de vol, après Stern-Gerlach, où on voit un nuage très, très intense ici qui représente les atomes qui ont été lancés dans le condensat et qui n'ont pas été diffusés. Et puis on voit ici clairement un nuage correspondant aux atomes qui ont été diffusés qui sont dans un volume sphérique. Alors il n'est pas tout à fait sphérique parce que l'angle n'est pas perpendiculaire. L'angle de vision est à 45 degrés. Hein. Et ici, on voit le condensat initial, les atomes qui n'ont pas été diffusés du condensat et les atomes du condensat qui ont été diffusés. Et cette image-là représente ce qui se passe qu'on ne met pas de gradient Stern-Gerlach et qu'on a la superposition de l'image des atomes codés du condensat qui n'ont pas été diffusés et ceux qui ont été diffusés et l'image des atomes sondes qui n'ont pas été diffusés et ceux qui ont été diffusés également. D'accord? Mais l'application d'un gradient Stern-Gerlach montre très clairement les phénomènes. Et on voit à ce moment-là qu'il y a des collisions importantes qui se produisent et on peut mesurer leur nombre. Alors, les cercles qu'on voit, c'est un effet parasite. C'est un effet d'interférence parasite sur l'image, ça ne correspond pas à quelque chose de réel. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand V est plus petit que C? Alors, comme tout à l'heure, on donne à ce moment-là ici, vous voyez ici, on donne à, une vitesse, alors laissez-moi le marquer. À ce moment-là, on prend une vitesse beaucoup plus faible. Et comme pour l'excitation type phonon, on donne à ce moment-là à la vitesse des atomes sondes une direction non pas perpendiculaire au long axe du condensat, parce que la tension balistique est très forte, très rapide là-dedans, mais on la donne, on prend une vitesse le long de l'axe du condensat, comme pour les phonons. Et elle est plus faible, elle est de l'ordre de 7 mm par seconde. Mais après, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est comme elle n'est pas très grande, la gravité joue un rôle et les atomes tombent. Les atomes sondes tombent. Donc la vitesse des atomes sondes n'est pas la même dans tous les... Elle est dans une direction d'abord, au début, puis elle tombe. Et la vitesse initiale est quand même importante parce qu'elle permet de distinguer l'image des atomes qui ont été diffusés de celles qui n'ont pas été diffusées. Et le principe est marqué ici. Et ici, ici, on voit les atomes ont été déplacés vers cette quantité-là, les atomes sondes, et le petit nuage ici qu'on a représenté, c'est les atomes qui ont été diffusés. Ça n'a plus l'allure d'une sphère maintenant, parce que à cause du changement de direction de la vitesse de l'atome qui tombe. Et ça, c'est les atomes condensés, avec le nuage des atomes qui sont diffusés sous l'effet des collisions. Et les deux figures qui sont ici et là correspondent à deux densités différentes du condensat. Dans la première, on a V plus petit que C. Dans la deuxième, on a V plus... ici, on a V plus grand... on est dans le régime de superfluidité, ici, et pas ici. Alors ici, qu'on est dans le régime qui n'est pas encore... on n'a pas atteint le seuil de superfluidité. Vous voyez ici l'image des atomes qui ont été lancés, les atomes sont, et vous voyez très clairement ici quelque chose de plus sombre qu'au-dessus, ce qui montre qu'il y a eu des atomes qui ont subi des collisions. De même, pour le condensat, ici, on voit des atomes du condensat qui ont subi une collision, comme on s'y attend d'après ce petit schéma de principe. Par contre, quand la vitesse des atomes devient plus petite que C, nettement plus petite que C, on ne distingue aucune chose ni en haut ni en bas. Ni en haut ni en bas, on a supprimé l'image des atomes qui ont été diffusés. Alors, c'est moins clair, c'est moins spectaculaire comme image que celle que je vous ai donnée précédemment, mais les auteurs de cette référence ont fait des fuites en soustrayant le nuage thermique, en soustrayant le nuage condensé. Et c'est pas facile parce que la vitesse change au cours du temps, parce que les atomes tombent, il faut faire une moyenne spatiale assez complexe. Je n'entre pas dans les détails, ils sont assez complexes, je donne simplement un résultat final. Ici, on donne donc une probabilité de collision normalisée et moyennée spatialement. Il y a aussi beaucoup de simulations de Monte Carlo pour étudier ce qui se passait pour chaque atome sonde, comment il tombait, comment il entre en collision. Et la courbe en très plein représente la prédiction théorique à partir de la théorie que j'ai expliquée il y a deux séances, où on calculait l'extinction des collisions liées au phénomène de superfluidité et moyennée spatialement. Vous voyez, ici c'est une courbe qui, pour V sur C plus petit que 1, tend vers 0, puis ça croît comme ceci. Et ça, c'est les points expérimentaux qui montrent un désaccord de l'ordre d'un facteur 2 qui n'est pas compris par rapport aux prédictions théoriques, mais qui montrent très clairement que les collisions, la probabilité de collision, s'annule brutalement quand la vitesse devient plus petite que la vitesse critique. Donc on peut considérer que cette expérience est une mise en évidence expérimentale nette du phénomène de superfluidité. Il reste encore à comprendre ce désaccord, mais qui est lié au fait que l'expérience n'est pas facile, à cause justement du fait que pour des vitesses faibles, les atomes sondes, d'une part tombent sous l'effet de la gravité, d'autre part ont leur trajectoire modifiée par l'interaction avec le champ moyen du condensat. Voilà donc une série d'expériences qui ont été faites et qui concluent donc ce que je pourrais discuter comme régime linéaire où on peut étudier la diffusion sans tenir compte des corrélations qui apparaissent entre diffusion successive de photons par le condensat. La semaine prochaine, j'aborderai un nouveau problème qui est le problème de ce qui se passe quand, à cause de la longue durée de vie, du temps de cohérence très long du condensat, quand un atome a été diffusé par le condensat, un photon a été diffusé par le condensat, il laisse une marque dans le condensat, une marque qui vit suffisamment longtemps pour influencer la diffusion des photons qui arrivent ensuite. Et auquel cas, on voit apparaître des phénomènes de superradiance, des phénomènes de gain et d'amplification d'ondes de matière que j'aurai ensuite donc, à discuter et à décrire. Donc je vais m'arrêter là. S'il y a des questions à poser sur ces expériences, j'essaie de vous les présenter de la manière la plus synthétique possible. Il y a encore des points délicats, mais je trouve que c'est des expériences remarquables et qui ont apporté sur ce problème un éclairage extrêmement important. Christ, t'as des...
Oui, ok, qu'est-ce que veut dire
que là, c'est une...
La structure va à 0,5, j'aurais pensé que...
Ah non, elle monte. Ah non, elle va à 1. Elle continue. La courbe que j'avais donnée la semaine... Ah oui, elle continue. Elle n'a pas atteint son asymptote. Elle n'a pas atteint son asymptote. C'est bête, j'aurais dû amener la courbe que j'avais donnée il y a 2 semaines où elle tend vers 1. Mais là, c'est lié au fait que la vitesse... On n'a pas une seule vitesse de particules sondes. Il y a une distribution de vitesse de particules sondes qui dépend également de l'espace et c'est un problème assez complexe. Et j'ai oublié de dire que dans l'expérience, j'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais dans l'expérience qui est décrite dans la référence qui rêve les terres, là, il y a également un phénomène assez intéressant qui est mentionné, qui est le fait que quand on a beaucoup de particules diffusées, il y a un effet de stimulation bosonique qui fait que la diffusion de l'atome sonde par le condensat est amplifiée par ce capteur de stimulation bosonique. Il y a donc non seulement un effet de suppression des collisions liées à la superfluidité, il y a également un effet d'augmentation lié au facteur bosonique. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir dans la suite.